Bienvenue sur le podcast. Le podcast de trouver objet caché. www.tentaculess.net. Le site francophone dédié au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. À vous les poulpes.
Formidable. Et donc, vis-à-vis justement bah, ton comic strip, ou même, bah, ça pourrait arriver, tes illustrations qui sont dispo sur ton site, est-ce que tu as rencontré des soucis de plagiat, de retrouver un peu bah, ton œuvre utilisée sans ton accord, quoi?
Ah, non, ça serait bien, ça prouverait la célébrité. Non,
Piraté Ruby!
Piratez-moi! Non, c'est quand même, bon, faut pas se leurrer non plus, hein, c'est un, comment dire, ça reste un truc de niche, ça reste un truc qui sera réservé à des initiés, c'est un choix que j'ai fait de travailler sur ça, hein, j'aurais pu, parce que, on voit le monde du blog BD du webcomic français en particulier, c'est des gens qui racontent avec plus ou moins de talent leurs petits soucis, leurs bobos aux pieds, leurs pieds au supermarché.
Oui. C'est passionnant.
Et voilà. Et donc non, mais c'est vrai. Et bon, mais par contre, ça touche beaucoup de gens parce que voilà, ça vite. Alors que ça, c'est
un. Les gens ont des problèmes aux pieds. Ouais.
Et donc voilà, donc moi j'ai fait ce choix-là et.
Et puis en plus, je dirais que, en plus, pour être honnête, c'est vrai que Daniel, t'as quand même ton style est tellement connu que je dirais que même quand les mecs vont sur un forum prendre comme
Avatar.
Comme Avatar, voilà, comme Avatar, un truc, un Sotot ou un Toulou, ouais. On sait que ça vient de chez toi maintenant, quoi.
Oui, non, mais ça. Ouais, y a
c'est
pas
un peu une marque.
Ouais. Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est que moi j'ai un rapport, on va dire, à Internet et à l'image et tout ça qui est assez, on va dire, libre. C'est-à-dire que voilà, moi j'autorise les gens pour un usage personnel ou communautaire à utiliser mes images librement. Parce que j'utilise beaucoup d'outils libres, de trucs comme ça, et je considère que voilà, ça peut. Si le fait de faire utiliser des avatars ou de prendre des trucs, voilà, il y a aucun souci.
En parlant d'avatar, nous savons que Goumi, au fin fond d'une cave glauque et suppurante, a mis au fond un mini Goumi. Ouais. Et ton fiston, c'est un fiston, hein?
Non, c'est une fille. Mais...
Ok, d'accord, mais c'est pas grave. Hein.
Remballe ta question.
Ta fistonne. Elle est, parce que avec le côté marrant, elle a certainement dû regarder et tout ça. Elle a un monstre préféré?
Alors, bon, elle a bien sûr une peluche Cthulhu qui lui plaît bien. Mais alors, ce qu'elle aime beaucoup, c'est qu'on m'a envoyé récemment un My Little Cthulhu là, de Kovalik.
Une espèce de
sculpture en plastique d'un Cthulhu, là moi j'ai la version noire, avec des petits bonhommes dans les mains, qui est assez drôle, et ça elle aime beaucoup, parce qu'il y a les petits bonhommes qui sont dans les mains, et c'est ça.
Ah oui, les petits bonhommes en train de crier, style Lego.
Ouais, donc voilà. Donc d'ailleurs, John Kovalik, si les auditeurs ne connaissent pas, je leur conseille de voir du Dark Tower, donc qui est le webcomic de ce gars-là, qui est le précurseur des BD sur les rôlistes et tout ça.
Perso, je me marre plus avec The Unspeakable, et je trouve que, enfin, pour le dessin, c'est un peu différent quand même.
Certes, mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est un mec qui est très sympa.
Ah
justement,
oui.
j'ai fait justement des crossovers avec lui et tout, et c'est un gars qui est très sympa et qui a fait des dessins humoristiques sur Cthulhu alors que je mangeais encore. Mon tapioca, quoi.
Tapioca dans le sud-ouest. Bon, alors, revenons à la deuxième partie. Pour savoir un peu comment tu bosses, parce que ça peut être intéressant, comme ça, j'ai un peu l'anecdote. Est-ce que tu as des rituels? Tu nous as dit que tu prenais des notes donc pendant les réunions. Est-ce que tu as des rituels au moment où tu te mets dans un strip, tu te mets une zik
Alors j'écoute beaucoup de musique, hein, étrange et bizarre et variée, mais en fait je regarde beaucoup de séries ou de films, si possible Z ou Naz, pendant que je bosse. Alors les gens arrivent chez moi, ils voient deux gros écrans sur ma bécane et ils me disent ah c'est super tu te mettais pas non c'est juste pour regarder des vidéos et des trucs comme ça. Je c'est pas une espèce de enfin il y a beaucoup de mecs comme ça en particulier dans la BD qui font ça qui ont besoin d'avoir une espèce de flux pas forcément passionnant
Mais tu as un temps de travail genre c'est cadré ou tu fais ça la nuit, le jour ou peu importe
Le problème c'est que le jour je suis au bureau alors. Non en fait je bosse essentiellement le soir, voilà, donc quand on a un gamin et tout ça, les temps se raccourcissent et puis ma productivité baisse aussi. Alors.
Mais justement tu dis que t'en as fait plus de 200 et tout ça, t'as un peu réalisé tout ce que tu souhaitais faire ou comment ça se passe? Enfin, tu trouves que t'en es à quel pourcentage d'exploitation de The Unspeakable?
C'est une question que je me pose parce que c'est vrai que c'est pas un sujet extensible à l'infini. À part le fait que moi je remets un peu ça dans l'actualité, on va dire, qu'elle soit politico-scientifique ou voilà. Arrivera un moment où c'est vrai qu'on faut tirer un petit peu, enfin c'est faut tirer pour trouver les idées quoi, donc peut-être qu'un jour ça arrivera à sa limite, j'ai un peu du mal à voir, peut-être en troisième tome puisque bon c'est quand même assez avancé, puis de temps en temps j'ai des espèces de sursauts comme ça d'idées, je sais pas là, le truc sur les super héros moi ça me fait beaucoup rire, j'aime bien les super héros sans être un fan absolu. Donc j'aime bien mettre des super-héros face à H.P. Lovecraft, ça me fait mourir de rire, ça.
Moi perso, c'est plutôt les sous-marins. Hein. Moi, les sous-marins avec l'œuvre boîte de conserve, à chaque fois, je me pisse dessus.
Voilà.
Chacun
ses choses.
Si, c'est pas mal, les super-héros. Ouais. C'est ceux qui passent, on va dire... dans le monde cinématographique, donc c'est pas non plus le super-héros que personne ne connaît où il faut être super initié quoi.
Moi je suis pas un grand spécialiste de genre du comic comme ça et voilà, mais voilà, faut s'avouer aussi qu'il y aura une limite et il y aura une espèce de temps où il faudra. Et ça aussi, peut-être qu'un jour, professionnellement parlant, je serai sur un projet tellement gros que je pourrais plus assumer ça. Ouais. Mais bon, pour l'instant, j'arrive à peu près à faire ce que je veux, à faire des pochettes aussi pour les quelques artistes qui m'intéressent, qui me demandent. C'est vraiment un choix. Un choix de liberté de pouvoir faire ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui galèrent pour vivre. Donc moi, j'ai la chance d'avoir mon boulot qui me paye bien.
Justement, quand tu parles de choix, le choix de l'anglais, c'était pour un axe de diffusion, une cible
Ça s'est imposé parce que voilà, comme c'est une publication de niche. Le public français était pas énorme. Alors, Lovecraft a énormément marqué la bande dessinée, par exemple. Bon, j'ai découvert la bande dessinée donc quand j'étais à Angoulême, justement au sein du CNBDI, on avait une bibliothèque énorme. On pouvait lire toutes les BD parues depuis des années. Ou mes parents avaient un ami qui avait une très grosse bibliothèque et donc j'ai très vite trouvé toutes les références de, on va dire, de la génération métal hurlant. Sur Lovecraft, ouais. Ça a énormément influencé des gens de Casa, Drouillet.
Mais c'est pour ça, quand tu dis, il y a quand même vachement, de Français qui sont dessus.
Oui, mais si tu veux.
Et puis le jeu de rôle a vachement bien marché aussi en France. Même Peterson le disait dans les années folles, et il remerciait les Français pour leur soutien et tout ça.
Oui, mais bon, ça reste quand même un nombre, on va dire, faible comparé. À la masse que tu peux avoir dans le monde entier. Et puis dans le monde entier, voilà, moi je parle des Hongrois, des Russes, des trucs comme
et
ça.
Et pour en revenir à notre côté franchouillard, par contre, point de vue trad, il y a des trucs de prévu.
Ouais, mais c'est pareil, ça c'est une longue histoire, un peu compliquée, un peu douloureuse. Je voudrais faire une version française. J'ai déjà eu plusieurs projets montés. J'ai un traducteur, hein. qui est Johan Sipion, je sais pas si vous connaissez. Qui est,
ce bon vieux Johan.
Ouais.
Johan, si tu nous écoutes, retourne bosser sur ton jeu de rôle. Voilà. Ouais, mais mais le problème, c'est qu'il faut quand même réussir à faire rire, quoi. Je dirais que c'est pas juste de la traduction, quoi.
Non, c'est difficile, hein, c'est très difficile, justement. Mais bon, là, il m'avait fait, hein, bon, pour démarcher les boîtes françaises, il m'avait fait quelques trucs qui étaient assez drôles, quoi, sur les. Les shogis, il avait écrit ça, c'est les shogots, CHO, c'était assez rigolo, ou Choubni écrit CHOUBNI, c'est assez marrant, enfin, il a bien trouvé le petit truc. Voilà, ouais. Et donc il y a eu deux.
si, non, avec le strip, ça devait être marrant, mais c'est vrai qu'on se dit, moi je suis sûr qu'il y a des blagues, enfin.
Ah non, mais de toute manière, un, certaines blagues ne passeront pas.
Ouais.
Et puis deux, le choix de l'anglais s'est aussi imposé parce que c'est une langue, même si moi, ouais, voilà, qui est faite pour ça, qui est vraiment une langue concise,
ouais.
où sont courts, où on va très vite à l'essentiel, où il y a beaucoup d'adjectifs pour qualifier des choses, mais où on n'a pas besoin de faire des périphrases et des adverbes, des choses compliquées. En gros, une phrase anglaise, elle est entre de 20 à 40% moins longue qu'une phrase française pour dire la même chose. Donc, ça s'est un peu imposé aussi pour ça. Et c'est vrai que c'est un challenge, en fait. Bon, après, voilà.
Donc, pour l'instant, la trad, c'est un peu au point mort, quoi.
Ben, disons que j'ai monté deux fois le projet avec la même personne. Là, je pensais que c'était bien parti et tout. Et puis, bon, je ne citerai pas les gens. Qui ont disparu dans la nature.
J'en ai entendu parler.
Voilà, donc alors là, j'ai recontacté d'autres. Alors le problème, c'est que voilà, moi, il y a un truc que je veux pas faire, parce que j'ai vaguement connu ça à une époque, c'est prospecter les maisons d'édition avec le carnet sous le bras, se faire trimballer de bureau en bureau, attendre 3 heures qu'on daigne vous recevoir et tout ça.
Ouais.
Parce que c'est l'usine, en fait, le monde de la bande dessinée, c'est vraiment l'usine. Et quand on s'adresse à des grosses sociétés, style bon, les gros, hein, Darko, Van West et tout ça, c'est l'usine. Et bon, moi, j'ai pas envie de passer.
C'est le travail, ouais, de rentrer là-dedans.
Voilà, donc voilà, moi, ça sera l'occasion, le coup de cœur, le truc. Il y a plusieurs personnes déjà qui m'ont proposé. J'ai pas de soucis, ça se fera, ça arrivera. Alors peut-être que ça sera trop tard. Peut-être que ça. Mais bon, voilà, le médium aussi intéresse maintenant, le médium, le webcomic adapté, puisqu'il y a plein de gens qui font des webs, des blogs et tous les blogs BD et tout ça, qui sont assez. Qui maintenant commencent à être édités, donc voilà.
Ouais, ça fait des sacrés merdes parfois.
Putain,
j'en ai vu.
Oh,
les
mousses.
Non, mais finalement, c'est pas forcément quelque chose que tu peux porter autant, moi je trouve.
Difficile.
Les Unspeakable, c'est sympa parce que c'est bon, t'as 3 planches, parfois t'as des grandes, t'as des pleines pages et tout ça. Enfin, moi je trouve que ça passe bien, mais c'est vrai que j'ai vu des bonnes grosses merdes là, des trucs que tu dis, là, la vie de tous les jours, ma vie est merdique, je vous la raconte et achetez mon truc.
Non, mais attends, il y a des mecs qui sont très doués, tu vois.
Ah, par contre, oui, bien sûr.
Tu prends un boulet, son album et tout ça, c'est top, mais bon, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est plus facile de raconter la queue au supermarché. À n'importe qui, il va vaguement se reconnaître, alors que parler du plateau de Lingue ou.
Putain, je me reconnais là, et c'est moi.
Voilà. Oui, c'est vrai qu'on s'adresse plus à des initiés dans ce cas-là.
Voilà, c'est sûr que c'est moins facile, et je pense que ça attire un peu moins les éditeurs. Mais c'est ça qui est fou, hein, c'est que, voilà, par contre, en fait. Ce qui manque, bon, mais ça c'est mon avis très personnel sur Lovecraft et tout, il manque à Lovecraft le Seigneur des Anneaux qu'il y a eu pour Tolkien, c'est-à-dire de faire remonter comme la fantasy l'a été d'un loisir pour ados, une espèce d'univers comme ça, qu'est-ce que c'est, ils s'amusent, des filles à gros nichons, des monstres gluants. Si Lovecraft arrivait un jour à être comme ça mis mainstream, bon là il y aurait une espèce d'intérêt.
Pour les gros nichons, faut voir From Beyond. Hein.
C'est vrai.
Il y a du cul les mecs.
Nous attendons le prochain à voir la dernière news là sur Jeffrey Combs. Bah, ça a l'air pas mal. Prochaine adaptation de Stuart Gordon.
Ouais. Alors, mais par contre, bon, ok, bon. Tu veux pas rentrer, je comprends, chez un éditeur et tout, mais.
Non, je veux pas. C'est
non, non,
vole.
Mais ça, je veux dire, ça t'intéresse pas dans le mode de fonctionnement, démarche, aller voir comme ça. Par contre,
en fait, c'est... Vas-y. Je veux pas y passer trop de temps, moi je veux dire. Ouais.
C'est pour l'instant, c'est un truc en plus. On avait compris.
C'est un truc en plus qui déjà prend suffisamment de temps pour le faire. Si en plus les démarches pour ne serait-ce que être vaguement vu ou comme ça, si en plus moi ça doit me prendre autant de temps,
ouais.
Voilà, je vais pas.
Mais par contre, comme auteur classique, un truc moi, qui m'interpelle toujours, c'est les dédicaces comme on en a fait pendant la nuit Pulpic. C'est ton trip ou pas?
Ouais, moi je fais pas mal de dédicaces. Enfin, comme je l'ai dit, je vais tous les ans depuis 2002 ou 2003. Je vais donc à la foire du jeu, qui est la plus grande manifestation, on va dire, du jeu du monde. Hein.
C'est énorme.
Essen, ouais, c'est 4 fois plus grand que l'E3. C'est monstrueux.
Et il y en a qui ont des exigences quand tu fais les dédicaces, ou tu t'en as cure et puis tu fais un peu ce que tu veux, ou alors si on te dit dessine-moi un Shogot, bah tu le fais.
Oh bah oui non mais moi je considère que le public voilà, après bon, s'il me demande à faire à dessiner Jeanne d'Arc sur un raptor avec, entouré de 2000 nains pris à pic, pourrait peut-être
ouais, mais c'est ça qu'en plus t'en avais fait, je m'en rappelle, au monde du jeu quand t'étais venu, quand ouais, ouais. La sortie de Nightmare Agency, ouais.
Non mais le truc c'est que bon, moi je suis pas auteur de BD, on va dire, au sens où peuvent l'être les gens qui doivent vendre leur truc pour vivre, que je connais bien, hein. Mes parents organisent un festival dans le Gers, moi je suis très copain avec des gens comme Druyer, Toute Bézian, voilà, enfin, je connais bien un peu la vie de ces gens-là, et c'est vrai que eux ils font pas ils doivent passer tant de gens dans la journée, ils font pas des feuilles volantes. Parce que ben voilà, eux c'est un album, c'est des sous pour leur saucisse de Strasbourg.
Ouais.
Voilà, moi c'est pas trop mon souci. Donc voilà, si quelqu'un arrive avec un carnet, une feuille volante, un gamin veut un truc, il y a absolument aucun problème. Puis voilà, moi je peux faire des. Ce que je dis, vous voulez quoi, sérieux ou rigolo?
T'as gamin qui sort en pleurant.
Il a dessiné une tête coupée, c'était rigolo ça.
Ça m'a fait peur. Bon, on va attaquer la quatrième partie, qui est donc Goumi et Appel, car comme tu l'as dit au début de ce podcast, l'inspiration c'est notamment parce que tu as beaucoup lu et aussi tu as beaucoup joué.
Ouais. Ah bah en fait, voilà.
Après, bah, on va venir un peu à la découverte de l'Appel et de Lovecraft.
En fait j'étais perdu au fin fond de la campagne gersoise, comme ça je jouais pas au rugby, donc je m'ennuyais un petit peu, et j'ai rencontré toute une bande de copains, on va dire un petit peu geek avant l'heure, hein, qui était et dont un qui avait des livres de Donjons et Dragons. Et voilà, et donc j'ai découvert le jeu de rôle vers 14-15 ans, et puis bon, rapidement après avoir bousillé des vrais et des golems, j'ai joué à l'Appel, et c'est vrai que là j'ai pris un peu une claque, quoi, parce que c'était vraiment étonnant de cette espèce
ça
de...
a changé, ouais.
Ouais, ouais, et puis donc le gars là que je continue à voir d'ailleurs, qui est sur Paris là, qui a participé à la traduction d'ailleurs de pas mal de Volt, ce gars-là m'a donné beaucoup de bouquins et m'a dit tiens voilà, lis ça. Et c'est vrai qu'à partir de là j'ai fait ma culture, et j'ai eu une espèce de choc parce que en entrant dans la culture du jeu de rôle, j'ai vu que un, on pouvait a priori illustrer des choses qui nous intéressaient et en vivre, puisqu'il y avait je connaissais la BD, c'est tout, et puis là j'ai vu qu'il y avait des bouquins entiers qui étaient illustrés, des mecs qui gagnaient leur vie avec ça. Et puis donc voilà, le truc fantastique. Et
t'as beaucoup joué?
J'ai beaucoup joué, ouais. T'es voilà.
Investigateur plutôt?
Non, j'étais investigateur au début. Et puis voilà. Et alors malheureusement, j'ai beaucoup joué et j'ai assez rapidement, on va dire, fait le tour. Le problème de l'Appel de Cthulhu, c'est que c'est un jeu, je dis toujours, qui est assez. où on atteint les limites parce qu'on sait trop de choses, que la découverte n'est plus là, la surprise est moins présente.
Ah ouais,
voilà.
C'est marrant, ça.
Ouais, et donc j'ai un peu, enfin à mon goût, hein, touché, mais bon, c'est pas grave, j'ai continué après, j'étais vraiment mordu de jeux de rôle et j'ai beaucoup joué et tout ça, et donc j'ai un peu laissé, au bout de 4-5 ans, j'ai un peu laissé de côté l'appel, j'ai joué quelques fois dans des conventions, ce qui était très bien, enfin quand les scénarios étaient bien, j'ai un peu masterisé pour des débutants, moi j'aimais beaucoup faire jouer des petits scénarios à des gens qui démarraient le jeu, parce que c'est vachement adapté, hein, c'est vachement bien.
Et t'étais aussi meurtrier que dans tes sketchs, dans tes parties avec les débutants ou
Non, avec les débutants on est gentil, non. ouais, mais par contre, avec les joueurs sérieux, quand j'ai eu quelques joueurs sérieux, voilà, c'était un peu sans pitié. Mais j'ai pas trop. J'ai pas fait les énormes campagnes où tu perds 10 personnages et tout ça. J'ai toujours fait suffisamment en pointillé ou joué moi-même le personnage qui s'en sort et qui s'échappe, quoi, enfin, qui survit. Pour éviter donc ce sentiment, ouais, de grobinisme, de répétition.
D'accord.
Mais c'est voilà.
Petite question concernant, je dirais concernant le jeu en lui-même. Quand tu vois, bon, voilà, les nouvelles gammes ou les anciennes gammes comme Chaosium ou jeu des cartes ou des trucs comme ça, ou même maintenant le 7ème cercle aussi, et puis Sans Détour, quand tu vois leurs illustrations, toi en tant qu'illustrateur, je dirais, qu'est-ce que ça t'évoque? T'en penses quoi?
Je suis pas, enfin, j'ai vu un petit peu, j'ai pas vu le matériel, on va dire, physique des livres encore. Disons que moi j'ai un assez mauvais exemple, puisque je fréquente pas mal donc c'est les Allemands qui ont des gammes superbes, mais vraiment superbes, avec des finitions, les bouquins, ils sont très très beaux, ils sont capables donc de développer des méthodes d'illustration très intéressantes. Je parlais de leur version du Malleus Monstrum, je crois, qui est une espèce de manuel des monstres, où pour chacun des bestioles, l'illustration, c'est pas un dessin, c'est un objet de l'histoire où ça va être par exemple un vase étrusque peint avec la bestiole, mais l'objet a été fait, photographié et tout ça, ou une mosaïque romaine qui représente un truc, et voilà, donc ça c'est des choses un petit peu subtiles. L'abus de Photoshop et de surtout des photos retouchées, je suis pas trop fan du truc, quoi. Je comprends, hein, que ça puisse. J'ai toujours été un amateur du côté vraiment pictural et peintre. Et d'ailleurs, dans 80% du cas, je trouve que les illustrations, on va dire, fantastiques et celles de Cthulhu représentent trop. Une espèce, ouais, de sur design, sur précision.
Ouais, tu vois pas le côté un peu abstrait.
Géré.
Voilà, et ça c'est vrai que moi j'ai, enfin, dans mes dessins, on va dire.
Quand on parle d'abstrait, c'est vrai que les premières parutions de Chaosium étaient vraiment très abstraites. Très abstraites. Franchement, il y a des...
Après, c'était dur de. Mais voilà, moi, je me souviens du livre des monstres de Cthulhu, c'était un peu trop figuratif, un peu. Enfin, voilà, ouais. On avait un peu du mal. Alors, quoi qu'il y avait des choses plastiques intéressantes, hein, je me souviens du Wendigo, ou une représentation de, si je me souviens bien, qui était bien, de d'Azathoth, ou des choses comme ça.
L'arbre stellaire était pas mal aussi, parce qu'on voyait juste un œil et puis une espèce de montagne.
Ouais, mais voilà, donc après, c'est vrai que c'était un petit peu, enfin, le milieu du jeu de rôle, jamais poussé à la subtilité artistique.
Ça, c'est quand même, en même temps, Lovecraft, le problème, c'est que c'est toujours normalement indescriptible. Donc,
ouais, voilà. Indescriptible, mais avec 3 pages de description quand même. Donc,
ouais, avec des notions, quoi. Par exemple, on va parler de griffes, de dieux protubérants, de.
Ouais, des trucs bleus, de couleurs sortant du spectre. C'est vrai qu'ils utilisent vachement.
Des trucs abstraits, quoi.
Voilà, ouais. Des termes qui sont pas forcément figuratifs, quoi. Qui sont...
C'est vrai que c'est pas évident.
Le comment dire moi je pense que voilà maintenant on a des outils suffisamment puissants enfin tant au niveau de l'animation ou pour commencer à pouvoir approcher la figuration de ça et c'est vrai que moi là j'ai enfin là où j'ai vraiment pu faire des bons tests c'est quand j'ai bossé sur Blueberry où on faisait des représentations de trips sous drogue.
Ah oui, donc, ça oui, je m'en rappelle.
Voilà, et donc il y a des parties de films.
Ça m'a fait vomir mes popcorn ce que là, je m'en rappelle.
Voilà. Il ah, y a des moments, ça fait un peu psychédélique, c'est vrai, mais il y a des moments, par contre, enfin moi j'ai vraiment accroché, sans trop spoiler le film, c'est par un moment où on voit un peu comme des araignées, des insectes aussi, enfin disons où il y a quelques repères quoi. On peut s'accrocher quand même à certaines choses qui nous parlent sans que ce soit vraiment le truc psychédélique avec des pyramides, des carrés, ouais, des ronds.
Bofsky,
là, où là c'est chaud quoi.
Non mais bon voilà donc tout ça pour dire que c'est difficile. Autant maintenant il y a vraiment des artistes très intéressants dans leur traitement de la figuration de l'offre. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai participé à une expo, là, une énorme expo, qui était à la Maison d'ailleurs, qui s'appelait Le Livre qui rend fou, ouais. Donc qui était une illustration du livre de raison de Lovecraft, et qui regroupait plus de 150 artistes en fait. Et j'ai pas pu voir l'expo, mais je le regrette. Sur mon weblog, là, il y a le lien vers les salles. Mais je suis allé voir une partie de l'expo qui était à Nantes pour les Utopiales, où il y avait, on va dire, un tiers de l'expo. Mais bon, c'est assez excellent de voir les variétés de figurations qu'il peut y avoir et tout. Enfin, c'est pas un monde fini, quoi. C'est vraiment
Chacun a son interprétation un peu. Quoi.
Ouais, qui permet beaucoup de choses, beaucoup plus que la fantasy, où les codes sont malheureusement, enfin, c'est plus un truc technique maintenant la fantasy. Comment on va représenter telle ou telle chose?
Ouais, puis on a des clichés en tête. Enfin, ouais. Un guerrier, un magicien, tout ça, on se le représente. C'est vrai qu'alors que ouais. Un profond ou un chasseur spectral, ça parle pas à tout le monde, quoi.
Ouais, et puis sans compter certains qui sont ramenés, genre pour toujours le même cas des polypes, qui me fait toujours assez halluciner. En fait, on décrit plus les vents qui bougent et leur façon de contrôler les vents. Et finalement, on se retrouve avec une espèce de beholder de donge dans
ouais. Bah ouais, c'est ça.